OK, Luc, tu veux nous parler de logement social dans une tour de condo de luxe sur le site de l'ancien hôpital Montreal Children au coin de René-Lévesque et Atwater, si je ne m'abuse. Mais avant, là, plante le décor. C'est quoi du logement social?
Ah, la maudite bonne question. J'aime tellement ça que tu me poses cette question-là parce que c'est un succès à Montréal et au Québec, le logement social. Oublie les projects américains, là, comme dans la banlieue de Chicago. Oublie
ce sont des bunkers là, anonymes.
Puis qui ont été obligés de démolir. Tu sais, toutes les YouTube de grosses tours qui sont obligés de démolir 30 ans après parce qu'il y a trop de problèmes. Puis oublie aussi les banlieues françaises avec leurs barres de logement, avec c'est des véritables ghettos de pauvreté et de marginalité. Le logement social à Montréal, d'abord, c'est un mix entre du logement subventionné et un logement ordinaire. Donc, dans chaque habitation, il y a 50 % ou moins de logements subventionnés, puis il y a aussi du logement pour quiconque veut en avoir. Fait que là, il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui choisissent d'aller là-dedans, mais en règle générale, non. En règle générale, c'est des gens qui gagnent autour de 40 000 $, une pauvreté pas du tout visible, puis qui s'associe à une pauvreté qui l'est un peu plus, mais ça donne un bon mix. Puis je te mets au défi en te promenant sur certaines rues du plateau et d'autres quartiers centraux, de dire ça, là, ici, c'est des logements sociaux. Ce sont des coopératives qui incluent une part de logement social. Alors, il y a une nouvelle politique montréalaise qui a été adoptée en juin qui exige d'avoir dans toute nouvelle construction 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements pour les familles.
OK, donc 20 % 20 % 20 %
Oui. Le dernier 20 % de logements pour les familles, ça, c'est pas un coût pour le promoteur parce que ce que ça dit, c'est qu'il faut que ça soit des grands logements avec plusieurs chambres. Ouais. Il peut les vendre même comme logement de luxe. Donc, c'est pas du social, c'est pas de l'abordable. Là où il y a un coût pour lui, c'est de vendre du social puis de l'abordable. Puis le coût est relatif parce qu'en fait, la ville paye par porte puis le coût de construction. Donc, lui...
La ville subventionne cette partie-là qui est obligée de réserver pour le logement social.
C'est ça. Avec des subventions du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, mais il rentre dans son argent. En coût de construction, il rentre à peu près dans son argent. C'est pas une grosse charge pour lui. Puis il reste 60 % de son immeuble à louer comme il veut, à vendre comme il veut. L'affaire, c'est que cette politique-là s'ajoute à deux autres politiques qui se sont cumulées. Le REM, le fameux réseau électrique métropolitain, exige aussi une taxe, impose une taxe de 10 $ le pied carré pour tout immeuble qui est construit à 500 mètres d'une station. Quand on s'éloigne du centre-ville, c'est à 1 km d'une station. Parce que le principe, c'est de dire, si j'amène le REM, tu vas vendre plus de maisons, plus de logements, donc j'en veux une partie. Et il y a une autre affaire, c'est un autre droit qui s'appelle les frais de parc. Lorsque tu construis un endroit où il n'y a jamais eu de logement, ça c'est une vieille politique, mais elle a été renouvelée récemment, tu dois payer 10 % de la valeur du terrain en frais de parc pour que la ville puisse construire pour ces nouveaux arrivants-là, des parcs, des bibliothèques, etc., etc. Ça fait que...
Ça nous amène au coin de Atwater et René-Lévesque.
Oui. Les gens d'affaires se sont beaucoup inquiétés. Ils ont dit, attends une minute, là, le 20 % de logement social, 20 % de logement abordable, 20 % pour les familles, les frais de parc, la taxe du REM, les taxes municipales, la taxe de bienvenue, à un moment donné, laissez-nous faire de l'argent. Puis il y avait des inquiétudes réelles de dire, est-ce que ces gars-là vont réussir à faire un peu d'argent? Même que mon ex-boss, Richard Bergeron, avait refusé d'appliquer ces politiques-là dans les tours qui sont autour du forum qui ont été construites pendant que lui était au pouvoir parce qu'il disait, attends, pour une fois qu'on a des gens qui veulent construire à Montréal, on va pas leur imposer tout ça. Je dois t'avouer que même nous, on a eu ce doute-là. Mais en avril de l'an passé, il y a eu, la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal fait son forum des grands projets annuellement et le promoteur du 111 du Atwater prend le micro puis dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À Montréal, on atteint des nouveaux sommets. On vient de vendre un condo dans le projet dont il est question. On vient de vendre le condo 15 millions de dollars.
15 millions?
15 millions de dollars, un condo.
Wow.
Un penthouse. Puis là, tu sais, la foule applaudit parce que là, wow, l'argent arrive à Montréal. Hey, c'est-tu fantastique? C'est extraordinaire. Enfin, on arrive chez les grands. On est dans les grandes métropoles. 15 millions, là, wow. Une ronde d'applaudissements, mesdames et messieurs. Le terrain au complet a coûté 25 millions de dollars. Donc, okay. 25 millions de dollars pour le terrain, 15 millions pour un condo. Je sais bien que dans le condo, il faut encore le construire.
Oui, puis il faut décontaminer, il faut détruire, etc.
Mais on parle de 6 tours, dont 5 de une de 20 étages et 5...
Attends, le terrain coûtait 25 millions, c'est ça? Ça n'incluait pas les coûts de déconstruction, j'imagine?
Non.
OK.
C'est ça. Puis ils ont le droit de construire 5 tours à 16 étages et une à 20 étages, et ce qui est une densité énorme. C'est une énorme densité, c'est très serré. Pourquoi? Parce qu'à l'OCPM, le promoteur a dit oui, mais on va vous construire du logement social. On accepte de construire du logement social et une des tours, ça va être du logement social. Fait qu'il signe, y a un règlement qui passe sous codaire.
C'est une bonne chose. On veut ça. On veut qu'il y ait une mixité comme ça.
Exactement, exactement. Même pour les détails, la ville va aussi construire une bibliothèque là-dedans. Ça va coûter une fortune. Ça va coûter 140 millions de dollars sur 40 ans avoir une bibliothèque à cet endroit-là. Okay. Alors, le promoteur dit oui, mais après ça, quand il a vu que les condos de super luxe se vendaient très, 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 très bien, beaucoup mieux que prévu, on est sur une station de métro, on est en plein centre-ville, etc. Il dit non, je ne peux en faire de logement social, c'est trop cher. Il accepte même de se priver de sa pénalité. Il dit, moi, je vais laisser sur la pénalité 6,5 millions de dollars de pénalité, mais je ne veux pas faire de logement social. Et c'est là que les élus de Ville-Marie et le service d'urbanisme ont été super rapides parce qu'il y avait eu l'autorisation de construire sa patente à sa sixième tour selon un règlement et non pas selon un permis. Petite nuance, un permis, tu ne peux jamais le retirer à quelqu'un. Un règlement, tu peux le changer. Fait que les élus de la ville de Montréal, donc du centre-ville, de Ville-Marie, ont rapidement fait un conseil d'arrondissement spécial le vendredi, juste avant la fermeture, pour pas que le gars demande un permis, il soit coincé, parce qu'après ça, c'est la fin de semaine. Font un conseil de ville, changent le règlement, il est coincé, il peut pas construire sa tour. Le règlement dit, tu vas construire, je te donne le droit juste de construire du 3 ou du 4 étages. Tu veux construire du 16 étages, tu vas nous donner du logement social. Rare victoire de la ville de Montréal, mais belle victoire.
Parce que si je comprends bien, un promoteur peut décider de ne pas faire de logement social, mais il va devoir payer, c'est ça?
Oui, mais c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que tout le monde voudrait se saisir de cette possibilité. Et cette possibilité-là, elle existait dans l'ancien règlement, et là, elle a été retirée. Parce qu'évidemment que tout le monde veut que le logement social soit construit à Montréal-Nord. Ils sont prêts à payer pour que ça s'en aille loin. Mais, tu sais, la crainte...
C'est contraire aux ambitions de mixité sociale.
Oui, puis franchement, là, ce sont des craintes inutiles. Les gens qui... Tu sais, il y a ça tout le long du canal de la Chine, là. Le long du canal de la Chine, t'as beaucoup, beaucoup de logements sociaux qui cohabitent avec du condo de luxe. Ça fonctionne très bien. C'est plus la pauvreté d'antan. C'est pas la pauvreté des HLM d'antan. Ce sont des gens qui ont pas beaucoup d'argent, mais ont souvent fait des études. Ce sont des travailleurs autonomes, dans certains cas, etc. C'est pas la grande pauvreté qui va dans les HLM. C'est une pauvreté qui se mélange, se mixe très bien. Et Dieu soit loué, ça m'a donné un centre-ville plus vivant, plus humain, plus diversité.
Okay. Bingo. Et tu voulais me parler du rapport du BIG sur les terres contaminées. Hein? Qu'on voit, c'est qu'il y a un racket là, où le crime organisé est là-dedans. On prend des terres qui sont polluées, dans le fond, et on drop ça en bon québécois, n'importe où. Qu'est-ce qui te frappe dans ce rapport-là?
Ce qui me frappe, c'est comme maire, combien de fois on a dû se rasseoir pour re-signer des ajouts pour des terres contaminées, parce qu'à chaque fois, chaque projet, on nous dit « Ah, ben on a trouvé plus de terres contaminées que prévu. » Puis des fois, là, c'est des ajouts d'$1 million au projet. Un projet de piscine, $1 million de plus. Mmh. On a trouvé des terres contaminées plus que prévu. On a fait des tests, on a fait du carottage. My God, on les avait pas vus. À chaque fois, c'est systématique. Et on a appris dans un reportage, tu te rappelles peut-être, les terres contaminées qui étaient vidées sur le bord de la rivière à Sainte-Sophie. Alors, un espèce de je m'en foutisme pour la nature, mais aussi pour... c'est de la grande mafia, c'est du grand crime organisé. 18 sites qui ont été trouvés. La difficulté, ce qui me frappe en particulier, c'est qu'on ne peut jamais les pogner. Parce que on voit un camion qui s'en va là-bas, on voit la terre contaminée là-bas, mais on ne peut pas dire c'est de la terre contaminée liée... Le camionneur était-il au courant de ce qu'il y avait dans son camion? Est-ce que la personne qui l'a reçu était au courant de ce que le camionneur avait dit ça dans son camion? Puis, est-ce que c'est vraiment cette terre-là, de ce camion-là, qui est à cet endroit-là? Ça, c'est le genre de problème là, qu'en cours ne se résout jamais.
Écoute, pour situer les gens, il y a eu des accusations, il y a un procès qui s'en venait, les accusations sont tombées. Il paraît que c'est extrêmement difficile à prouver.
C'est ça. Tu sais, il y a des éléments dans le droit administratif là, où le présumé... on présume tout le temps la personne de bonne foi en partant. Puis même si la personne a été pognée 10 fois avant, on la présume encore de bonne foi parce qu'en droit administratif, t'as pas un caseload, là, t'as pas un dossier qui te suit. Là. Même si t'es fait attraper 10 fois, ça veut pas dire que la 11e fois, c'est toi. Fait que quelqu'un qui se serait fait attraper 10 fois à mettre des terres contaminées sur un terrain où il n'y a pas le droit de le faire, la 11e fois, on voit un camion qui arrive, il met la terre là, c'est le même gars qui les a mis les 10 fois l'avant, on sait pas si c'est des terres contaminées puis s'il était au courant. Fait que moi, là, ces affaires-là, la cour, en règle générale, sur la petite délinquance et sur la grande délinquance, je trouve que notre droit est extrêmement laxiste. Et la seule façon que l'inspectrice a proposé comme solution, c'est de dire ben il faudrait que la ville traite elle-même ses terres contaminées. Quand tu es rendu à dire que tu peux pas faire confiance au privé parce que le droit ne nous permettra pas de poursuivre, ça va pas bien.
Et les Hells Angels ont généralement de bons avocats.
Je ne sais pas dire.
Merci Luc, on se retrouve demain. Il est 17h18, Pierre-Yves Mixouin s'en vient.